Et nous, les sports co, on est un peu dans la machine à laver, on est sans cesse. On est rentré de Tokyo, une semaine après, moi, je devais retourner dans mon club. Aujourd'hui, j'ai 2 médailles olympiques, j'en ai une en argent et une en or. Donc, si tu ne te faisais pas connaître et tu ne faisais pas parler de tes succès, les gens, ils oublient. Et savoir qu'elle voulait lancer sa maison d'édition avec moi, avec ce bouquin en premier, c'était un message fort. Moi, je suis très attachée au sport féminin, je me bats pour ça depuis plusieurs années. En 2008, mon délire, mon rêve, c'était de prendre une photo avec Michael Phelps. Quand tu fais ce que tu as toujours fait, tu as les résultats que tu as toujours obtenus.
Hello, c'est Vanessa, créatrice de contenu dans le sport depuis 7 ans sous le pseudo champion du digital. Sur mes réseaux, vous retrouverez des interviews inspirantes d'athlètes de haut niveau, des insights dans les coulisses des plus grands événements sportifs et des conseils pour faire carrière dans l'industrie du sport. Sur ce podcast, j'alterne entre des interviews inspirantes de sportives et sportifs de haut niveau et des décryptages avec des professionnels pour répondre à des problématiques concrètes autour de l'industrie du sport et du marketing. Que vous soyez étudiant, athlète, professionnel de l'industrie du sport ou du digital, ce podcast est fait pour vous. Ça fait plus de 7 ans que j'accompagne tous les acteurs du monde du sport qui veulent se rendre visibles sur les réseaux. L'année dernière, j'ai fait plusieurs millions de vues sur TikTok et Insta grâce à des vidéos verticales impactantes. Si vous avez un projet autour du sport dans les semaines à venir, écrivez-moi sur LinkedIn ou par mail et on en discute. Bonne écoute. Dans cet épisode, je pars à la rencontre d'Alison Pinault, une grande championne française de handball. On a échangé sur son parcours, ses médailles, ses souvenirs autour des Jeux, mais aussi sa préparation pour les Jeux de Paris 2024. J'ai échangé avec Alison au mois de décembre dernier à l'occasion de la sortie de son livre « Ali, histoire d'une championne », où elle parle de son parcours, de ses obstacles, mais aussi de sa résilience. Juste avant de commencer, on parlait du PSG et du fait que tu commandes des matchs depuis pas longtemps. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Comment ça s'est passé et comment tu en es arrivé là?
Tout simplement pour mon amour du PSG. Je vais souvent au parc quand j'ai la possibilité. Et puis, Pia a eu vent de ça. Elle m'a invité justement sur l'émission 100% PSG qu'elle commande. Et du coup, on a commencé à parler de fil en aiguille. Et elle m'a rappelé pour une autre émission au sujet de mon bouquin. Et elle m'a dit, mais il faut vraiment que tu viennes un soir avec nous. Commenter un match, ça va être super. Elle m'a invité. J'ai sauté sur l'opportunité. Je regarde le calendrier. Je dis, ah, mais il y a PSG, il y a Dortmund PSG. Et elle me dit, ouais. Banco, elle me dit, ouais, carrément et tout. Pas de souci, avec plaisir, on t'accueillera avec l'équipe. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Et mercredi soir, je me retrouve en fait avec toute l'équipe, Rico, les invités, Pia, Miguel. Et on se fait le game. Et c'était une super belle expérience parce que j'apporte une dimension un peu différente d'eux. Je suis toujours athlète, je suis toujours en activité et j'apporte finalement le ressenti de l'athlète, des joueurs, de ce côté un peu pur terrain qu'ils ont qu'à travers des joueurs. Et c'était fabuleux. Il y a eu un gros débat justement sur cette fin de match où il y a eu plutôt Enrique qui demandait une gestion et de l'autre côté t'avais Kylian qui lui voulait essayer de marquer, de pousser. Et donc il y a eu un gros débat. Moi je disais ils ont raison, on va pas prendre de risque. On sentait qu'on était sur le fil du rasoir, hein, que c'était un peu tendu et que peut-être on allait prendre un but en contre. Donc il fallait aussi penser à ça. Et donc il y avait l'équipe qui était là. Mais c'est quoi, on est le PSG, on peut pas faire ça. On doit tout faire pour marquer, pour essayer d'être premier. Moi j'étais là, ouais, mais du coup on est prêt à tout. À quel prix? Et c'était un beau moment.
C'est surtout que toi, tu as la vision qu'un journaliste qui n'a jamais été sportif ou sportif de haut niveau n'aura jamais. C'est la vision du terrain. Donc, c'est clair que c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Et puis, cette empathie aussi que tu as en tant qu'athlète de haut niveau que n'aurait pas forcément un journaliste qui n'a pas expérimenté le terrain. Évidemment, tu as Paris 2024 dans le viseur, les Jeux à la maison. Qu'est-ce que ça a de particulier, les Jeux Olympiques, par rapport à d'autres compétitions, comme un mondial par exemple? Et en quoi, justement, l'expérience, c'est important sur une compétition comme les Jeux Olympiques?
Simplement, les Jeux, c'est la planète. C'est ce qui différencie du monde, c'est qu'on se retrouve tous pendant 2 semaines à un endroit, on est enfermé et on vit des émotions extraordinaires. Pour aller plus loin, c'est l'universalité. Et tu te retrouves avec des gens que tu suis peut-être pendant l'année, tu suis les exploits sportifs. Je repense à quand je revois Michael Phelps en 2008, en 2016, enfin, tous les Jeux. Moi, je suis une grande fan de Michael Phelps. Et donc, c'est tout ça, en fait, les Jeux, c'est de voir tous ces gens que tu vois performer. Je repense à Nadal, à Djoko, je pourrais en citer plein. Je me rappelle du Usain Bolt aussi au village, Asafa Powell, Jason Blake. Enfin, je pourrais Fraser aussi. C'est tout ça. C'est vraiment ça, les Jeux. Ça dépasse vraiment un mondial et un euro parce que déjà, ça se passe tous les 4 ans. Donc c'est une particularité, c'est pour dire à quel point c'est difficile d'aller au jeu. Faut te qualifier. Quand t'arrives là-bas, bah il faut prendre la dimension de l'événement, de ce moment particulier. Il faut performer et après peut-être prétendre à une médaille. Donc c'est vraiment complexe les jeux, mais c'est une compétition tellement spéciale. Tu te prends à regarder des disciplines que finalement tu connaissais même peut-être pas, ou que tu t'aurais jamais regardé si c'était pas les jeux. Et c'est ça les jeux, c'est se prendre goût à des disciplines auxquelles on ne parle pas, on prête pas attention, et c'est assez fabuleux. Et puis de voir tous ces pays du monde, toutes ces nations, des fois tu vois la cérémonie d'ouverture, il y en a, ils sont trois athlètes pour représenter leur pays, et c'est ça qui est fabuleux. C'est ça les jeux. C'est la représentation, en fait, de toute cette population mondiale.
Et puis, à la différence d'un mondial, par exemple, qui est limité à un seul et unique sport, les Jeux, c'est le moment où tu vas croiser des athlètes de toutes les disciplines. Et ce qui vous relie notamment, c'est le village olympique où se croisent tous les athlètes. Est-ce que tu aurais une anecdote qui te vient, où tu parlais tout à l'heure de Usain Bolt ou d'autres athlètes que tu aurais rencontrés, des athlètes qui t'inspirent par exemple?
En 2008, mon délire, mon rêve, c'était de prendre une photo avec Michael Phelps. Parce que je le suivais déjà depuis quelques temps et je savais qu'il venait à Pékin pour battre le record de Mark Spitz. C'était ouf et de se dire qu'il a réussi à le faire, et je l'ai vu au self. Et j'ai sauté sur l'occasion direct parce que certes il était connu, mais pas encore, il avait pas pris cette dimension. Et j'ai sauté sur l'opportunité. Je veux ma photo avec Michael Phelps. J'ai vu Maradona aussi en trim. Enfin, que des trucs du genre. Des fois tu te dis je suis où? Mais c'est ça les jeux.
On va parler des Jeux de Tokyo. Un grand moment pour vous puisque vous gagnez la médaille d'or. Quel est le premier souvenir qui te vient quand je te dis Jeux Olympiques de Tokyo?
Délivrance. Consécration, c'est ça le truc auquel je pense. Extraordinaire de se dire qu'enfin on a réussi à le faire, qu'on a réussi à décrocher ce titre, à décrocher cette médaille d'or après la déception de Rio. En tout cas, moi, ça a été une déception personnelle parce qu'on n'a pas réussi à accrocher le titre, et que certes, je suis d'accord, j'ai la chance d'avoir une médaille olympique en argent à Rio, mais malgré tout, il y a cette frustration, entre guillemets, avant les Jeux de Tokyo, de se dire qu'on n'avait pas réussi. Et puis, on ne sait jamais quand est-ce que l'opportunité va se représenter. Donc, il y avait ça. Et bah, aujourd'hui, j'ai deux médailles olympiques. J'en ai une en argent et une en or. Donc, je suis, entre guillemets, comblée.
J'écoutais récemment un épisode de podcast sur le podcast Championne du Monde, dédicace à elle d'ailleurs, si elle nous écoute. Et c'était un épisode avec Madeleine Malonga, qui a participé aux Jeux Olympiques, qui a remporté les Jeux, et qui est en équipe de France de judo, et qui expliquait en fait qu'elle n'a pas forcément le temps de savourer entre chaque jeu, entre chaque grande compétition, et que voilà, c'est déjà la next step. Est-ce que toi, tu prends le temps de savourer chaque victoire sur les grandes compétitions, et est-ce que tu arrives à avoir le recul de te dire « waouh, ben voilà ce que j'ai fait », prendre le recul de voir que c'est vraiment un exploit en fait, ou est-ce que t'es déjà dans la next step?
C'est idem. C'est nous les sportco, on est un peu dans la machine à laver, on est rentré de Tokyo, une semaine après moi je devais retourner dans mon club pour la reprise, et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de prendre le temps finalement de savourer nos performances, nos exploits, et des fois c'est frustrant parce que ça nous empêche finalement de réaliser la grandeur de ce qu'on a réalisé, entre guillemets, et de prendre le temps et de savourer avec les gens, de dire ouais, on a réussi à le faire, et de profiter, entre guillemets, de ce moment d'extase, parce que c'est tous les 4 ans, donc ça arrive pas tout le temps, et c'est quand même particulier. Donc c'est vrai que c'est complexe, c'est de se dire ouais, bah j'ai fini, puis finalement bah faut déjà que je me projette sur la prochaine échéance. La prochaine échéance c'est le club, et puis après surtout une autre compétition qui arrive 4 mois pour nous, le handball, avec le mondial du coup après les Jeux de Tokyo.
Si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de ton livre, de ta biographie, Ali, histoire d'une championne, que tu as coécrit avec Mejdaline, et qui sort aux éditions Les Sportives. Comment est né ce projet? Est-ce que tu peux nous en parler? Et à noter que cet ouvrage sort aux éditions Les Sportives. C'est le premier ouvrage de la maison d'édition qui a été créé et fondé par Aurélie Bresson, qui a le média Les Sportives. Donc j'imagine que c'est aussi un choix de passer par Les Sportives pour, pour sortir cet ouvrage et comment ça s'est passé, comment s'est passé le processus d'écriture, parce que j'imagine que c'est un exercice vraiment particulier.
Bah, le projet, il m'a été proposé il y a deux ans, à peu près. J'avais eu cette opportunité quelques années auparavant, mais j'avais pas donné suite parce que je pense que c'était pas le bon moment pour moi. J'avais chantais pas le réel feeling. Et là, ça a été immédiat avec Aurélie, parce que le projet me parlait intérieurement, ça me parlait vraiment, parce que déjà c'est Aurélie Bresson, c'est une femme qui se bat pour la place de la femme dans le sport, le sport féminin, et savoir qu'elle voulait lancer sa maison d'édition avec moi, avec ce bouquin en premier, c'était un message fort. On est en adéquation sur les valeurs et finalement ce qui nous motive. Donc le choix a été simple et assez rapide de répondre positivement à ce projet d'autobiographie. Ça s'est très bien passé avec Meij. On s'est vu beaucoup de fois, on a fait beaucoup d'entretiens, on a passé beaucoup de temps, on a beaucoup échangé. Le travail d'introspection, c'est un art qui est assez complexe et qui est difficile parce que ça remue beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions qu'on doit exprimer, qu'on doit essayer de finalement transmettre à la plume qui va écrire. Donc c'est pas simple, honnêtement. Ça a fait remonter beaucoup de souvenirs, des moins bons et des plus heureux, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que je suis très apaisée d'avoir réussi à le faire.
Cette biographie parle évidemment du fait que t'es une athlète de haut niveau, championne, t'as gagné de nombreux titres. On en parlait tout à l'heure, mais du coup, moi, je suis partie aux États-Unis pendant 5 semaines récemment. Et donc, c'était un programme leadership et sport. Et on avait... La responsable du programme, c'était une ancienne coach de basket qui nous disait tout le temps « Le sport, c'est ce que tu fais parce que tu es. » Est-ce que ça t'inspire quelque chose, cette phrase ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
C'est assez marrant parce que... Alors, ça résonne, mais en même temps, je trouve ça un peu détaché parce que moi, je trouve que finalement, le sport, c'est ce que tu es. Parce que de la manière dont tu es dans ta vie en dehors, c'est aussi comment tu retranscris ça dans ton sport. Et donc je sais pas trop comment le prendre. Peut-être que la manière dont je l'interprète, c'est ce que tu fais dans le sport, c'est plutôt, ça peut être un exutoire. Du coup, ce que t'es en dehors, tu peux être quelqu'un en dehors, mais tu peux être aussi quelqu'un d'autre sur le terrain. Moi, je l'interprète plutôt de cette manière, c'est comme ça que je le vois. Mais malgré tout, t'emmènes qui tu es sur un terrain. Mais c'est vrai que j'ai appris ça tout au long de ma carrière, c'est que je le vois avec les coachs et avec certaines joueuses. C'est que des fois, t'as des coachs, ils sont super humains, ils sont super bien en dehors, tu en vois, et dès qu'ils mettent le pied sur le parquet, ils se transforment. Ouais. Et franchement, c'est archi bizarre, mais t'as l'impression qu'ils rentrent dans une bulle, en fait, où c'est leur concombre, leur position un petit peu, leur zone de confort. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et si ils emmènent un peu cette haute partie d'eux avec, ça fonctionne pas, ça matche pas. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal. Mais pour moi, je pense que je suis la même personne en dehors et sur le terrain.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est, par exemple, si t'as un échec ou si t'as une défaite, au final, en fait, tu l'emmènes avec toi en dehors du terrain. Et même si, en fait, ça va impacter ta personne, même si c'est, enfin, la défaite, elle correspond à la défaite, pas de la personne, mais la défaite de la sportive. Et des fois, on a tendance à pas faire la différence. Enfin, moi, je le vois, tu vois, par exemple, je pense à un truc, mais ça n'a peut-être rien à voir, mais en tant que créatrice de contenu, tu vois. Par exemple, je vais faire une vidéo et en fait, si la vidéo, elle marche pas pour X ou Y raison, parce que peut-être que c'était pas au bon moment, peut-être qu'il y avait une erreur dans la caption ou quoi que ce soit, peut-être que je vais la reposter plus tard, elle va fonctionner, mais si elle marche pas à ce moment où je la poste, je vais me dire... peut-être que je vais tendance à avoir à me dire, mais c'est moi qui suis nulle, en fait, parce que ce que j'ai fait, c'est nul, ça marche pas. Alors qu'en fait, la personne qui crée les vidéos, c'est la personne qui crée les vidéos et il y a un humain derrière, en fait. Et des fois, on a tendance, je pense, à plus faire la différence et ça devient compliqué, quoi.
Ouais, exactement. Mais je trouve que c'est important, du coup, parce que finalement, ça veut dire que ça te touche, ça veut dire que ça t'affecte parce que t'y mets ton cœur, t'y mets toute ton énergie et... Je trouve ça compliqué de dire... moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je veux dire, demain, il se passe quelque chose dans ton taf, t'as une situation qui n'est pas confortable ou tu t'entends pas avec ton boss, avec ton manager. C'est quelque chose que, paradoxalement, t'emmènes aussi chez toi parce que c'est ton quotidien, c'est ce que tu fais tous les jours quand tu te lèves, c'est ta raison d'être, entre guillemets. Donc, c'est logique. c'est logique. Et donc, c'est un peu pareil dans le sport. Et ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours des échecs. Il y aura des réussites, il y aura des échecs. On essaie de minimiser les échecs. Mais malgré tout, c'est aussi ce qui nous permet de nous remettre en question, ces échecs, et peut-être aussi de nous amener à nous poser des questions de manière différente.
Alors justement, est-ce qu'il faut beaucoup échouer pour beaucoup réussir?
Il y en a qui aiment dire oui, il y en a qui aiment dire non. Je suis pas de... Ce qui est clair, c'est qu'il faut avoir des échecs. On essaie de les minimiser. On essaie d'en avoir le moins possible. Je pense que plus il y a de la répétition, plus on arrive à magnifier ce qu'on fait. Parce que c'est logique, hein. Plus tu répètes un mouvement que tu prends l'habitude de faire plusieurs fois, et plus tu t'améliores à le faire, plus t'es plus rapide, t'es plus efficace, tu trouves finalement d'autres shortcuts pour le faire plus rapidement ou pour l'améliorer. Je pense qu'il faut avoir des échecs, c'est clair et net. Après, le but, c'est pas de toucher le fond non plus pour, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, et puis surtout, il y en a, t'as des gens qui ont moins de talent. Et ces gens-là, en général, quand ils ont moins de talent, ils ont besoin d'échouer beaucoup de fois, parce qu'ils ont besoin d'avoir un certain temps pour assimiler des choses. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs avant qu'ils réussissent. Et je pense, moi, c'est de cette manière que je le vois, c'est que t'as des gens qui ont une facilité dans la vie pour faire des choses, peu importe ce à quoi ils touchent, ils ont une aisance, une facilité. Et t'as des gens, si je retranquais ça un peu dans le sport, t'as des gens, ils sont pas doués, mais c'est par leur force de travail que finalement ils arrivent à leur but. Et moi, c'est comme ça que je vois que t'as des gens qui ont besoin de beaucoup d'échecs, justement, pour atteindre leurs objectifs.
Tu fais des études à côté, en parallèle à l'EDEC, en finance. Pourquoi c'était important pour toi de continuer ou de reprendre tes études?
Alors moi, c'était indéniablement, je m'étais promis que j'allais reprendre mes études après ma carrière. Je m'étais promis ça quand j'ai décidé d'arrêter après le bac. J'avais commencé un cursus et après j'ai arrêté parce que je voulais me consacrer complètement à ma carrière. Et j'ai dit, tu te promets de reprendre tes études quand tu vas décider d'arrêter, parce qu'il faut que tu aies un bagage. Faut que tu aies une certaine légitimité. Et puis, le temps est passé, et puis il y a eu quelques blessures, et tout de suite, même si tu as un monde en carrière où ça se passe très bien pour toi, la réalité te rattrape rapidement. Et donc, moi, comme c'était une promesse que je m'étais faite, j'ai dit, je vais reprendre mes études, et j'ai fait l'EDEC parce que c'est une super business school, et moi, que je veux me spécialiser du coup en finance. Et l'EDEC fait partie des meilleures écoles dans ce domaine-là, donc ils font partie du top 5. Donc, il y a quelques années, ils étaient dans le top 3, voire même le top 2, ils étaient même notre deuxième position. Donc, donc voilà. Et puis surtout, il y a une grosse communauté alumni qui est hyper importante. Et puis j'ai eu cette opportunité-là et j'ai foncé. Pourquoi c'est important pour moi? Je l'ai déjà dit, c'est le bagage, les skills que j'ai besoin d'acquérir. Certes, il y a toutes les soft skills que j'ai acquéri durant ma carrière, mais il y a aussi tout ce bagage, cet autre bagage finance, corporate, que je maîtrise pas, que j'ai besoin justement d'avoir avec moi. Tout ce côté purement entreprise, je vais dire, que j'ai besoin d'avoir. Et on est dans un monde où on sait que les femmes en finance, il y en a pas beaucoup, et que c'est un monde qui est très marqué par les hommes. Donc je sais que si je veux faire ma place et que je veux m'imposer, même si je sais que je suis douée dans plusieurs domaines et dans certaines choses et que j'ai une maîtrise, si j'ai pas un diplôme, les gens ils vont essayer de me rabaisser.
Non mais c'est incroyable ça, mais c'est vraiment un truc français en fait. Parce que quand j'étais aux États-Unis et que je discutais avec les gens, tu te rends compte qu'il y a des gens qui font des carrières incroyables, mais qui n'ont pas forcément fait de longues études, en fait. C'est, en France, en fait, on regarde de suite quelle école tu as fait, quel niveau d'études, etc. Alors que c'est pas ça qui fait la compétence, en fait. Enfin, tu peux être autodidacte et tu peux apprendre par toi-même plein de choses. Je dis pas qu'il faut pas faire d'études, hein, parce que c'est important aussi. Mais ce truc de regarder quelle école, quel diplôme, etc., et de te poser cette question en premier, c'est très français, en fait.
Ouais, exactement. Je suis d'accord avec ça. Donc, moi, c'est surtout plus dans cet aspect crédibilité, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai des projets à côté, je fais des choses qui pourraient me permettre de ne pas en avoir besoin, mais malgré tout, ça compte pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir ce diplôme et d'avoir ce background, parce qu'après, j'aimerais aller vers un master, peut-être un MBA aux US. Donc, j'ai besoin de ça. Et puis surtout, c'est pour avoir, moi, je suis très attachée au sport féminin, je me bats pour ça depuis plusieurs années, c'est mon credo, et j'ai envie de trouver le business model qui va faire que le sport féminin, en fait, ça va exploser et qu'il y a des gens qui vont s'intéresser vraiment au sport féminin. Et je veux comprendre, je pense comprendre les aspects du pourquoi les gens ne viennent pas vers le sport féminin. Ils n'ont pas le clic en se disant « Ah, mais on pourrait réussir dans le sport féminin aussi. » Parce que dans le sport, il n'y a pas énormément de gens qui gagnent de l'argent, je veux dire au niveau des investisseurs. Mais pourtant, ils investissent. Donc, qu'est-ce qui fait que, donc, il y a une histoire d'image, mais il y a aussi une histoire de produit, il y a une histoire de marketing. Il y a plusieurs aspects aujourd'hui qui sont assez marqués, dont j'ai conscience et j'ai envie de trouver cette solution parce que on fait aussi des choses extraordinaires et à performance égale, on n'est pas mis sur le même piédestal, entre guillemets, des garçons. Et on peut réussir. Donc, voilà, c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'aussi je fais de la finance parce que je veux trouver ce truc un peu manquant pour le sport féminin.
C'est encore moi, je prends 10 secondes et je vous interromps dans cette conversation pour vous informer que vous pouvez vous procurer le livre d'Alison Pinault qui vient juste de sortir, Ali, histoire d'une championne, aux éditions Les Sportives. Il vous suffit juste d'aller dans la description de cet épisode et je vous partage le lien. Je vous interromps pas plus et je vous laisse continuer cette conversation.
Réussir justement à élever les femmes et à dire à toutes ces gamines qu'elles peuvent faire du sport, elles peuvent rêver parce que demain elles vont pouvoir peut-être en vivre. Ça va leur apporter une exposition. Elles vont pouvoir s'exprimer, qui est aussi un peu ce safe space, tu vois. Donc voilà.
Ouais, en fait, c'est pas faire de la finance pour faire de la finance. C'est gagner un apprentissage sur la finance pour mettre ça au service du développement du sport féminin.
Exactement. Ouais. Je veux trouver vraiment ce pont en fait entre finance et sport parce que moi le sport j'ai ça dans le sang et donc c'est sûr que je vais pas couper le cordon ombilical comme ça, mais aujourd'hui il y a cette volonté aussi d'aller au state et de faire un MBA parce que bah c'est une histoire aussi de réseau et de faire comprendre et d'expliquer pourquoi le sport féminin aujourd'hui ne réussit pas et pourquoi vous intéressez pas, mais qu'est-ce qu'on peut apporter en face de ça. Et je pense que l'une des premières problématiques, c'est que on n'arrive pas à mettre en avant de ce qu'on peut vendre comme produit.
Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Quand je suis partie aux États-Unis, on est parti à la fin de la première semaine en Californie pendant 3 jours à l'ESPN Women's Summit. C'était des conférences qui étaient dédiées à l'économie du sport féminin. Et donc, tu avais tous les acteurs du sport business, des clubs, des annonceurs, etc. NBA, NHL, etc. Et en fait, sur une conférence, ils ont parlé d'une étude super intéressante qui avait été faite récemment et qui disait... en gros, il y a un problème d'investissement dans le sport féminin parce qu'il y a cette fausse image en fait négative perçue qu'il n'y aurait pas de fans. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est pas qu'il n'y a pas de fans, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement, donc pas assez de communication.
Exactement.
Et c'est comme si, par exemple, tu vas au milieu d'une forêt, tu mets une boutique, mais tu donnes jamais le chemin. Les gens ne vont pas arriver tout seuls, en fait. Et donc, ils expliquaient qu'il y a une image perçue qu'il n'y a pas de fans parce que, en fait, c'est ça le problème, c'est que si tu investis, en fait, si tu communiques, les fans, ils vont arriver. Puisque tu vas communiquer, tu vas envoyer le message et ils vont s'identifier. Mais je pense que c'est aussi lié à tout ce qui est entertainment, divertissement, parce qu'en fait, quand tu vas voir un match de foot féminin, déjà, s'il n'y a pas cette communication, donc tu ne sais même pas qui sont les joueuses, tu ne vas pas t'identifier et tu n'arrives pas à avoir cette connexion, en fait. Donc, pourquoi t'irais les voir au stade? Puisqu'en fait, tu sais, souvent, les supporters, ils savent à peine qu'elles existent, en fait. C'est malheureux, mais c'est un vrai problème d'investissement à la base, au départ.
Et en fait, ça me résonne trop. Tu vois, par exemple, j'ai eu cette réflexion il y a 2-3 jours, parce que je réfléchissais encore sur ce business model et j'essaie de comprendre, parce que moi, je veux aller, après, une fois que j'arrête ma carrière, je vais aller faire vraiment une tournée, en fait, aux US, de voir les clubs, de voir les infrastructures et vraiment voir ce côté chaud à l'américaine. Mais dans différents sports, j'ai déjà vécu en NBA. J'aimerais bien faire de la NFL, j'aimerais bien faire de nouveau des matchs de NBA, j'aimerais bien aller au baseball. Parce que regarde, aujourd'hui, comment tu m'expliques que le baseball, c'est pas un sport qui joue partout dans le monde. Ça se joue dans certains pays. Et donc, comment t'arrives à générer autant d'argent? T'as un mec là qui vient de signer le plus gros contrat de l'histoire sur 10 ans. On parle de baseball. Donc c'est pour dire que c'est pas une question de sport, c'est pas une question de genre ou de femme, c'est juste que comment ils arrivent à monétiser tout ça, comment ils sont un seul part mais ils sont très forts dans ça. Le cricket aussi en Inde, c'est hyper, ça appelle, tu vois. Donc et pourtant c'est pas joué dans ton pays que ça. Donc c'est là qu'il faut aller chercher, et comprendre les business models et comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est pas une question de sport. Moi, je pense au niveau de mon sport, le handball, on a dit que c'est un sport qui est pas assez universel, qui est pas tout, on peut pas jouer assez facilement parce qu'il faut des cages. Ouais, ok. Mais du coup, ça veut dire que comment on arrive à casser cette barrière, cette image qu'on a, pour justement faire en sorte que ça soit plus universel. Et je pense que dans le sport féminin, c'est typiquement ça, c'est qu'il y a cette barrière, il y a pas de fans, mais on peut reprendre par exemple la Formule 1. Ok, c'est un sport de riches, mais la Formule 1, ils étaient en train de mourir il y a 6 ans. Pourquoi finalement, ils ont attiré un nouveau public, de nouveau des jeunes, et tu vas dans des grands prix, c'est blindé. Et tu vois un public jeune et qui s'est pris au jeu. Mais pourquoi? Parce que bah, y a une stratégie marketing. On veut attirer un nouveau public, on veut attirer une jeune génération. Et c'est ça la force. Et nous, on doit s'inspirer de ça. On doit trouver notre propre identité, notre propre modèle. Mais on doit s'inspirer de ça et de comprendre aussi que si c'est possible chez les garçons, c'est aussi possible chez nous. Pourquoi les filles, des fois, tu vois certaines filles qui vont au foot masculin, mais qui vont pas au foot féminin? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et je pense qu'il y a un vrai rapport, en fait, d'image. C'est ça notre truc qui nous manque. C'est qu'on a du mal, du coup, à créer une communauté et la nourrir.
C'est super intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça me parle notamment au niveau du foot féminin. Quand je parle avec les gens, il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais ça avance. Mais Vanessa, tu peux pas comparer avec les États-Unis, avec l'Angleterre. » Eh ben, je suis désolée, mais les bonnes pratiques, on peut les piocher partout, donc, quel que soit le pays, en fait. Et pour moi, j'ai un exemple, c'est l'Australie. Quand je suis partie en Australie pour la Coupe du Monde féminine, pour moi, c'est carrément le truc de... c'est une question de culture. C'est-à-dire qu'en Australie, ils font pas du foot. Enfin, c'est pas un pays de foot.
Ouais, exactement.
Et je suis restée 5 semaines en Australie. J'ai vu des fanzones remplies. Des fanzones avec 30 000 personnes en Australie, à l'autre bout de la terre. C'est-à-dire que les fans du Brésil, des États-Unis, des fans du monde entier qui étaient présents sur place, qui se sont déplacés pour venir voir, pour assister à la Coupe du Monde féminine. Donc, à un moment donné, c'est qu'ils ont réussi à avoir une stratégie marketing, non seulement pour fédérer des fans et des supporters en Australie, mais aussi à l'international.
Ils l'ont fait, et puis surtout, tu te dis, c'est l'Australie, ils sont quand même à l'autre bout du monde. C'est ça. Et je veux dire, en termes de prix, c'est pas le pays le plus accessible. Je veux dire, l'Australie, la vie est chère. Donc, c'est. Voilà.
Pour en revenir sur ton parcours, t'es la seule Française à avoir reçu le titre de meilleure joueuse au monde en handball. Est-ce que ça a changé ta vie?
Pas du tout. Je vais te raconter une petite anecdote. Donc, ça m'a vraiment marqué. C'était Nicolas Karabatic quand il a remporté son premier titre de meilleur joueur du monde. Il était en Allemagne, il était à Kiel. Et je me souviendrai toujours quand j'ai lu l'article. Il a dit c'est la première fois qu'un Français, un joueur français, est titré et désigné en fait meilleur joueur du monde. Et en fait, personne n'en parle. C'est fou, c'est dingue. Enfin, c'est incroyable. Et certes, c'est que du handball, mais c'est le premier Français. Il y a personne qui a eu cette désignation, ce trophée avant lui. Et ça m'est resté. Et moi, j'ai remporté du coup aussi le mien. Et 2009. Et du coup, non, c'est dans la sphère handball, oui, ça s'est su. Mais après, en dehors, voilà. Et puis, j'étais très jeune, j'avais 20 ans en plus. J'étais pas entourée encore. Donc, non, pas du tout. Ça a pas changé ma vie. Ça a changé certaines choses dans la perception, peut-être dans ce que je devais devenir dans le futur, une motivation supplémentaire, etc. Mais non, ça a pas changé ma vie en termes de sponsor ni voilà. Non.
Ok, c'est fou quand même de se dire que ça. Pas d'impact au niveau... ça y a peut-être eu un pic de médiatisation, mais te dire que ça n'a pas d'impact au niveau du sponsoring, enfin, c'est assez fou quand même, parce que normalement, ça devrait être lié. Et du coup, j'aurais une autre question. Comment t'as vu, toi, l'évolution de la médiatisation du sport féminin depuis que t'as commencé, en fait, dans le hand?
Je pense qu'il y a eu un vrai cap... où on a senti que les gens ont commencé à mettre des choses en place. Je pense après les Jeux de Londres. Petit à petit, il y a eu, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est 4 ou 6%, je pense, la médiatisation. Voilà, ouais, c'est 4%. Je pense que j'ai vu l'évolution parce que quand j'étais en France et quand j'ai commencé en 2006, du coup, en pro. Donc, j'ai vu l'évolution de la ligue, j'ai vu les efforts, j'ai vu la communication se mettre petit à petit, mais ça reste infime. C'est infime. Quand tu regardes le palmarès de l'équipe de France féminine, et quand tu vois aujourd'hui l'échelle, tu fais la ratio entre titre et... C'est infime.
J'imagine qu'il y a eu des pics de médiatisation au moment où il y a des titres, en fait.
Comme toujours. Et de toute manière, moi, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner en 2017, parce que j'ai compris que si tu ne te faisais pas connaître et tu ne faisais pas parler de tes succès, les gens, ils oublient. Les gens oublient très très vite, mais vraiment, parce que par exemple à Rio, on remporte la médaille d'argent. Il y a Sarah Ramon qui rapporte la même médaille, et Sarah, on la voyait partout. Et on la voyait partout. Et je me suis posé la question. Ok, certes, elle fait un sport individuel et nous on fait un sport co, pas de problème. Mais je la voyais partout. Et tu la vois tellement partout que tu te disais, mais elle est championne olympique en fait cette fille. Ah non, elle est vice-championne olympique. Et donc, c'est pour te dire la force des médias quand tu plantes des graines et quand tu te fais connaître et que tu parles de ça, bah, finalement, tu marques les esprits. Et après, c'est quelque chose que tu dois entretenir sans cesse. Mais si tu le fais pas, je pourrais citer des autres athlètes qui ont été champions olympiques, il y a des gens, ils les connaissent même pas.
Justement, de quelle manière, toi, tu utilises les réseaux sociaux pour te rendre visible? Est-ce que tu vois ça comme un outil pour être ton propre média?
Moi, si je le vois totalement comme ça, les réseaux sociaux, je pense que le seul problème aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup d'athlètes, tu as beaucoup de filles qui ne se sentent pas légitimes, qui n'ont pas envie d'être sur les réseaux. Moi, je vois très bien dans mon équipe, il y a des filles, on essaie de mettre des trucs en place, enfin, il faut un peu les tirer. Et parce que je pense qu'elle, déjà d'une, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur, il y a ce truc je suis pas légitime, enfin ouais mais j'ai pas gagné de titre, ouais moi je suis personne. Non, mais en fait c'est pas ça les réseaux sociaux. C'est tu te mets en avant parce que tu veux parler à des gens, tu veux parler à ta communauté, tu veux transmettre un message et je pense qu'il y a une perception qui est pas bonne. À la base et les réseaux sociaux c'est juste en gros pour les stars. Il y en a beaucoup, ils pensent ça. Et en fait, c'est alors que non. En fait, peut-être que ta communauté, ça les intéresse en fait de savoir qui tu es, ce que tu fais dans ton quotidien, quel est le message que tu veux faire passer. Ouais, bah moi, peut-être t'es maman, ton credo c'est maman, tu kiffes être maman, bah parle-en en fait. Peu importe. Exactement. Et je pense que c'est hyper important, tu vois, de faire vraiment un travail aussi sur ça et de dire les filles, en fait, vous devez communiquer parce que en fait, c'est là où vous pouvez vous exprimer. En fait, c'est votre safe space à vous. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre sur vos réseaux. Et en fait, tout le monde a un message à faire passer. Tout le monde a une voix. Et ça aussi, c'est une problématique parce que du coup, quand t'es dans un club où finalement ils sont pas très bons dans la communication, où ils font pas beaucoup de communication parce qu'il y a pas de budget, ben justement, c'est là où les filles et tu peux tracter du monde. Et en fait, ça se mesure pas que par le fait d'avoir des followers, c'est pas ça. Mais il y a ce rapport. Et je pense qu'il y a une énorme pédagogie à faire et de dire aussi d'aiguiller des filles en disant peut-être dans les clubs. Moi, c'est mon idée, tu vois, mais de dire de convoquer en fait les filles et de dire ok, pourquoi aujourd'hui t'es pas sur les réseaux? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que t'aimerais le faire? Mais si tu le fais pas, mais on a besoin de toi parce que nanana. Et de dire qu'est-ce que t'aimerais faire? Et justement d'aider les filles à trouver cette ligne directrice, être en gros un guide et dire vous pouvez être sur les réseaux, c'est bien pour le club, c'est bien aussi pour vous, ça peut attirer d'autres sponsors et puis finalement vous pouvez créer aussi une communauté et puis c'est des gens qui peuvent venir aussi au match. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire autour de ça, de vraiment casser ces barrières et cette image de dire ouais, les réseaux sociaux c'est pour les stars.
Et tu vois, quand TikTok est arrivé, moi j'y suis allée en 2019, bah, il y avait quasi personne dessus, c'était plutôt les Américains qui étaient dessus. Et le monde du sport en France, les clubs, tout ça, n'était pas dessus. Et en fait, quand j'ai compris comment fonctionnait TikTok, c'est-à-dire tu peux avoir 3 abonnés et faire 100 000 vues, je me suis dit, là, ça, cette plateforme, elle est en train de changer quelque chose. Parce qu'en fait, si les sportives et les athlètes de disciplines qui sont moins médiatisées y vont, en fait, il n'y aura plus besoin d'avoir, je sais pas, 15 000 ou 30 000 abonnés pour pouvoir faire des partenariats ou collaborer avec des marques et donc monétiser son contenu. Et je pense que TikTok est arrivé à casser un peu le game sur ça. Et aujourd'hui, les marques, elles regardent plus que le nombre d'abonnés parce qu'en fait, tu peux très bien avoir 1 million d'abonnés et faire 300 vues et avoir 2 000 abonnés et faire 50 000 vues à chaque vidéo. Donc, en fait, ce qui compte, c'est le taux d'engagement, quoi. C'est les interactions que génère ton contenu.
C'est ça. C'est l'engagement aussi, du coup, c'est le taux d'engagement. C'est que des fois, tu peux avoir en fait une petite communauté, mais en fait, ils sont hyper actifs, et tout. Et c'est plus valorisant que d'avoir une communauté hyper importante et où du coup, les gens, ils sont pas vraiment engagés. Mais en effet, ouais, c'est pas une question de. Parce que c'est vrai que les gens, ils pensent, ouais, du coup, t'as beaucoup de followers, donc du coup, je peux avoir des marques, je peux avoir des sponsors, etc. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça.
J'ai vu que ton autobiographie, la préface, c'est Marie-Josée Pérec. En quoi elle a été un modèle pour toi? En quoi elle t'a inspiré dans ton sport?
Bah, c'est mon modèle de jeunesse, hein, clairement. C'est Marie-Jo, c'est l'icône. C'est la personne qui, à l'heure actuelle, détient toujours la seule athlète française à détenir 3 titres olympiques sur la même Olympiade. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Puis surtout, bah, on vient de la même île. Je suis longiligne comme elle. On m'a beaucoup dit que je lui ressemblais quand j'étais jeune et beaucoup pensé que j'allais aller vers l'athlète justement par rapport à ça. Et finalement, non. Mais elle m'a inspirée quand je la voyais à la télé, j'avais envie de faire comme elle en fait. Cet amour de l'olympisme, ça vient de Marie-Jo.
Tu as eu plusieurs expériences à l'international. Du coup, tu as beaucoup voyagé aussi. Qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences à l'international?
Ce qui m'a marqué, c'est la richesse des différentes cultures. Cette variété, moi, c'est ce qui me nourrit, c'est ce que j'aime, c'est ce que je vais chercher finalement dans les dans les différents pays. Tu te rends compte que les gens, ils ont beaucoup moins que ce qu'on a en France, mais ils ont le cœur sur la main. Et puis de découvrir de nouvelles traditions, c'est hyper enrichissant. Moi, c'est ce que je dis, c'est que finalement, l'étranger, ça a façonné la femme que je suis devenue. Et surtout, ça m'a appris l'ouverture d'esprit. C'est surtout ça que ça t'apprend l'étranger. Parce que t'as un peu tes codes, t'as un peu tes préjugés, entre guillemets. Tu viens avec une image et en fait, t'arrives là-bas et tu prends une claque. Et du coup, tu fais, ah, mais ouais, mais en fait, tous ces préjugés, tous ces a priori surtout, que t'as, en fait, au départ, très rapidement, bah, ils tombent parce que, bah, déjà, tu te retrouves dans un pays, tu parles pas la langue, donc, t'es obligé de sortir de ta zone de confort, les gens, ils vivent d'une certaine manière, il y a des règles à respecter, il y a des traditions à respecter, la nourriture, elle est différente, tu vois, de ce que, exactement, donc, tu vois, il y a tout ça. Et du coup, c'est ça qui est fort, c'est que bah t'es obligé de t'adapter. T'es obligé de comprendre en fait les gens où tu vis parce que tu vas pas venir toi de ton petit endroit là et te dire non mais vous devez faire comme ça, tu vois. Pas du tout. Et c'est ça qui est fort, c'est ça que j'aime. Ça me remplit moi. Ça, vraiment, c'est très très enrichissant de partir comme ça. Mais moi, c'est indéniablement, c'est vraiment l'ouverture d'esprit que ça m'a appris. Que voilà.
Ça me fait penser à un truc là, ce que tu racontes. Quand je suis partie aux États-Unis pour ce programme sur leadership et sport, on était 16 femmes du monde entier en fait à avoir été sélectionnées, donc 16 femmes de chaque fois un pays différent. Et je me rappelle, donc on devait toutes avoir un projet en venant aux États-Unis. Et j'ai une de mes collègues qui était athlète de haut niveau, qui était nageuse de haut niveau, qui a fait les Jeux Olympiques et elle venait de Bolivie. Et en fait, elle avait un projet, c'était de créer une piscine sociale en Bolivie. Et tu sais, tu te dis en France, bon ben les enfants, ils apprennent à nager à l'école quoi. Enfin, tu vois, tu penses que c'est normal, mais en fait, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'elle nous racontait qu'en Bolivie, aller à la piscine, ça coûte plus cher qu'aller prendre des cours de sport en fait. C'est hyper cher. Et du coup, le point, de quelle manière ça a un impact, c'est que en fait, les enfants, ils savent pas nager parce qu'ils peuvent pas aller, ils apprennent pas à nager à l'école, et donc il y a beaucoup d'accidents tout ça. Et en fait, donc elle disait, elle voulait faire un projet justement pour mettre en place des piscines sociales dans son pays. Et là, c'est là que tu prends du recul et te dis, ah ouais, mais en fait, ce que moi j'ai, c'est tout le monde l'a pas en fait, et je trouve ça incroyable en fait d'aller à l'étranger, à l'international, et de prendre du recul en fait sur la vision que t'as habituellement quoi.
Ouais, c'est exactement ça, mais c'est ça, et c'est pour ça que je dis, c'est moi, ça m'a façonné l'étranger, parce que les problématiques, comme tu viens juste de le soulever, ne sont pas les mêmes, et en fait ça te fait redescendre en fait, et tu dis ah mais ouais en fait, et tu te rends compte à quel point t'es privilégié en France, parce que tu vois que les autres en fait ils triment pour des trucs. Ils triment pour des trucs qui sont basiques de petites nécessités. Et toi, tu dis, ah, mais ouais, mais nous, en fait, on est couvert par ça. Ah, mais nous, on a accès à ça. Ah, mais il y a ça en France. Ah, mais ouais, il y a couverture sociale. Ah, mais en fait, en Bolivie, c'est comme ça, il faut payer. Non, ça te fait redescendre d'un cran, voire de même de plus. Parce que tu te dis, ouais, en fait, en France, on est chanceux. On est vraiment chanceux. Et certes, en fait, chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. Mais quand même. Tu vis dans un pays développé qui t'apporte quand même beaucoup de choses.
Mon compte s'appelle Champion du Digital. Du coup, je vais te poser la question. C'est quoi pour toi un champion ou une championne ?
Ma question m'a été posée récemment. C'est vrai que j'avais beaucoup hésité au départ. Je trouve que c'est difficile de définir un champion. Un champion ou une championne, ça ne se résume pas qu'à tes titres, qu'est-ce que tu as gagné. Parce que finalement, tu peux être aussi un champion en amateur. C'est aussi à ton level parce que tu combats aussi des obstacles qui sont différents peut-être de quelqu'un qui a un niveau au-dessus. Moi, je pense que voilà, les athlètes hors normes et hors du commun, c'est des gens qui restent focus. Pour moi, c'est ça, c'est que tu restes fixé sur ton objectif, peu importe ce qui se passe, et tu te détournes pas de ton objectif final, peu importe ce qu'il arrive. Donc, un champion, pour moi, ça se résume pas qu'à ses titres. C'est aussi il y a le côté, il y a l'athlète. Mais il y a aussi l'athlète qui a dépassé qui potentiellement dépasse son sport, qui est aussi engagé sur des causes sociétales. C'est important pour moi aussi en tant que sportif de dire, OK, il y a l'athlète, il y a aussi la femme, mais il y a aussi cette autre personne qui est engagée pour des causes qui sont importantes. Parce que tu sais que t'as un pouvoir d'action que quelqu'un de lambda, il n'aura pas. Et t'as une vitrine supplémentaire. Exactement. Donc, c'est pour moi un champion hors du commun. C'est quelqu'un voilà qui se préoccupe pas des autres. C'est vraiment quelqu'un qui reste focus en fait sur son objectif et que peu importe ce qui arrive en chemin, il va au bout. Après, il y a échec ou il y a réussite, mais voilà, tu te détournes pas de ton point A, on va dire.
Ah ouais, il y a un truc qui me revient par rapport à tout à l'heure. On parlait du fait d'aller à l'international, le fait que ça casse des stéréotypes, des préjugés et que tu as une vision différente. Et c'est un truc que j'ai expérimenté en partant aux États-Unis. Tu sais, le truc de la langue, de l'accent, quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, où tu parles pas la même langue. En arrivant aux États-Unis, je me disais, mais waouh, mon accent, il est vraiment horrible, mon accent français, quand je parle en anglais. Et en fait, je me suis vite rendu compte que toutes les critiques que j'ai eues sur mon accent, c'était que par des Français, en fait. Et que c'était en France, par des Français, qui jugent, en fait, comment tu parles. Même si toi-même, tu sais que ton accent, il est pas bon, tu vas avoir ce jugement-là, qui t'empêche, en fait, d'avoir confiance. Et je me rends compte à quel point, en partant à l'étranger, tu peux gagner en confiance. Parce que tu vois, quand je suis partie aux États-Unis, je suis revenue. Là-bas, aux États-Unis, en fait, rien que le fait que tu saches parler de français, que tu saches parler anglais, ils trouvent ça génial. Et justement, ils adorent les... Alors déjà, aux États-Unis, ils adorent les Français. Mais en plus, ils adorent l'accent français. Et au contraire, ils disent moi, je ne sais même pas parler français, en fait. Donc, c'est incroyable que tu aies appris la langue. Et qu'importe si tu as un accent qui n'est pas bon, du temps qu'on arrive à te comprendre, tout va bien. Et je trouve que c'est ça. Ça, c'est un truc important aussi. Quand tu vas à l'international, c'est cette confiance en soi que tu gagnes, en fait.
Exactement. Je pense que c'est super bien que tu te sois confronté finalement aux States, parce que je l'ai vu au travers de mes différents voyages. Ce que les gens, ils aiment, c'est de dire que tu fais l'effort. Ouais, c'est ça. Alors que nous, en France, on aime beaucoup parler, dire « Ah, mais ton accent, il est pourri. Ouais, mais ça, c'est pourri. » Mais en fait, il y en a beaucoup qui parlent pas de langue ou qui ont jamais été là-bas et ils savent pas. Et on est très fort pour ça, pour critiquer et pour dire « Ouais, mais nanana, nanana, mais non, en fait. » Et du coup, nous, c'est ce qu'on nous reproche à l'étranger, c'est-à-dire, ouais, mais vous, les Français, vous parlez juste français et c'est tout. Vous savez pas parler d'autres langues. Alors que dans les autres pays, tu vas et tu vas même des fois, tu vois des personnes 50 ans dans les pays balkans, ils parlent pas super bien anglais, mais ils baragouinent quelques trucs et tu sais, et du coup, c'est suffisant. Et en fait, le principal, ouais, ok, t'aimerais bien peut-être avoir un meilleur accent, mais tu peux le changer, mais peut-être que pour l'instant, c'est pas ton truc. Tu vois, tu peux toujours t'améliorer. Mais finalement, pour toi, là, l'essentiel, c'est de te dire que je me fais comprendre. Les gens me comprennent, c'est l'essentiel. Et peut-être que plus tard, j'essaierai de m'améliorer, de progresser dans mon accent. Mais je comprends que t'aies peur. Et en fait, c'est ça, c'est ce que les gens vont penser. C'est la perception, en fait, que toi, tu dis « Ok, moi, je suis ok. En fait, je sais que mon anglais, il est pas super. Mais le plus important pour moi, finalement, c'est de me faire comprendre. Et si les gens me comprennent, ça va. »
Carrément. Et quand je suis allée aux États-Unis, que j'étais en stage à ESPN, le deuxième jour, on a rencontré le PDG d'ESPN et je lui ai demandé un conseil qu'il partagerait en termes de leadership ou en tant que leader d'ESPN. Et il m'a dit un truc que je me souviendrai toujours, c'est le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est la capacité à vaincre tes peurs.
Exactement. Et puis surtout, tu te rends compte, mais en fait, tu te dis cette peur, en fait... C'est pas que c'est débile, parce que c'est pas le bon terme, mais tu dis, ouais, finalement, j'étais stressée, j'avais peur pour pas grand chose, parce que il a totalement raison. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'est tous les trucs que tu te mets dans ta tête, toi toute seule, et en fait, qui te bloquent. Et si t'arrives à passer au-dessus de ça, en fait, tu te rends compte, mais. Et je suis sûre qu'au bout de 3 semaines, déjà, t'étais beaucoup plus fluide, c'était fluide, tu réfléchissais plus, ouais, comment je dois le dire, comment je dois chercher, nanana. En fait, ça vient tout seul. Et c'est ça, en fait, faut être courageux, faut aller, en fait, au-delà de ses peurs, et une fois que tu passes au-delà de ça, tu te fais, ouais, en fait, tu dis, je me faisais des films pour rien du tout.
Et justement, si je te racontais cette histoire, c'était pour aller sur la question suivante. Quel est le meilleur conseil que t'as reçu dans ta carrière de sportive?
Ouais, alors moi j'ai un leitmotiv. Olivier Crombol s'est répété tout le temps quand on était souvent avant des matchs, quand on préparait des matchs, on préparait une grosse échéance et il nous disait souvent les filles, faut payer le prix. Et moi des fois j'avais du mal à l'associer, je dis ouais mais faut payer le prix de quoi et tout, nan, ok, ouais, il faut bien se préparer, nan, mais je dis mais ouais. Et en fait au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma carrière, j'ai compris le message derrière. Parce que je voulais atteindre les sommets, je voulais être la meilleure. Et moi, je l'ai reformulé à ma manière. Et c'est mon credo. Et dans la vie, en fait, je vois les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te fixes un objectif, tu mesures le prix et après tu payes le prix. Et c'est pour ça que, et c'est comme ça, moi, que je vois aussi un champion, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir des obstacles, tu vas tomber, tu vas te relever, nanana, mais et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le bateau, il bouge, il tangue, nanana, tu prends des tempêtes, mais si tu gardes en ligne de mire ton objectif final, tu arrives. Tu arrives. Après, peut-être que tu vas échouer devant, mais au moins, tu arrives au bout, tu vas au bout et tu t'arrêtes pas. Et ce qui fait la différence, je pense, d'un athlète, d'un hors du commun, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il se fixe l'objectif, il dit, OK, je dois faire ça. Et en fait, si je veux réussir à atteindre mon objectif, bah, il faut que je paye le prix. Et payer le prix, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour les Jeux de Tokyo. Je savais qu'il fallait que je sacrifie mes vacances d'été, le repos avant les Jeux pour pouvoir aller aux Jeux, pour aller me préparer différemment avec mes prépas physiques pendant 10 jours. Et c'est tout ça, payer le prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que tu vas devoir mettre ta vie dans un projet, ta vie peut-être un peu perso, ouais, aller à les potes, boire des petits coups, ouais, sortir, à prendre du temps pour les week-ends. Peut-être que tu vas devoir sacrifier un an de ta vie pour quelque chose qui va te rapporter peut-être x10. Et moi, c'est comme ça que je vois la life. Donc, j'ai un peu remodelé le truc, mais le meilleur conseil, ouais, que je pense qu'on m'ait donné, il y en a plusieurs peut-être. Là, de suite, c'est compliqué.
Mais c'est ce que tu viens d'expliquer, en fait. C'est dans ta vision, c'est en gros de se dire, au final, personne n'aurait réussi, enfin, tout le monde serait champion si tout le monde faisait la même chose. Et tu te rends compte que ce qui arrive, c'est que bah, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont pas abandonné, qui ont répété, même s'il y avait des échecs.
Exactement. Ouais. Il y a un bon dicton qui dit un truc, c'est que quand tu fais ce que tu as toujours fait, tu as les résultats que tu as toujours obtenus. Bah, voilà. Et donc, si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, bah, commence par faire des choses que tu n'as jamais faites. Et c'est surtout, c'est ça, c'est que tu répètes, et puis au bout d'un moment, en fait, tu t'améliores, je pense. Non, mais c'est ça. Et c'est ça qui est aussi frustrant, c'est que les gens, en fait, ils voient juste le résultat, ils disent, ah, mais t'as trop de chance, hein. La chance, en fait, je l'ai provoquée, et c'est le résultat, en fait, de tous ces efforts. Et c'est beau. Et en fait, les gens, ils voient que la partie, en fait, immergée de l'iceberg.
Pour terminer, ça représente quoi, les Jeux de Paris 2024 pour toi?
L'aboutissement d'une carrière. Je pense que pour moi, c'est le plus beau au revoir que je pourrais avoir. Le farewell de best.
Je vais terminer avec la question que j'aurais pu te poser tout au début, mais on la garde pour la fin. Après tout ce que tu viens de nous raconter, ton parcours, tout ce que tu as fait pour être là où tu es aujourd'hui, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu dirais ?
Je vous dirais que je m'appelle Alison Pino, que je suis plutôt cool, je suis fun, j'ai énormément de choses à dire. Je suis quelqu'un, je suis entière, je vais au bout des choses, je me donne toujours les moyens de mes ambitions et que la cause féminine, la femme dans le sport et la femme dans la société, c'est quelque chose qui comptait énormément pour moi. Donc, il faut, dans la vie, il faut savoir foncer et n'oubliez pas de me follow au cas où. Merci à toi, Vanessa. C'était au top, en tout cas, super.
Vous avez trouvé cet épisode inspirant ou utile? Sachez que vous pouvez m'aider à le mettre en avant sur les plateformes de podcast. Pour cela, il suffit que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et vous pouvez également commenter en posant une question ou en faisant une remarque sur l'épisode. Un autre moyen pour mettre en lumière l'épisode, c'est de partager le lien sur votre profil LinkedIn et de me mentionner dans la publication. J'hésiterai pas, de mon côté, à vous repartager. Merci.